Le petit déjeuner et donc le shiur est offert Leilou Nishmat Michal Michel Batmina André David Ben Fortune Efel Shion Chaim Ben Lina Kuka Claudine Amisha Bat Henriette Leavdil Ben Hametim Lachaim Refuah Shlema Gérard Abraham Ben Simcha Blanche Chaya Bat Miriam Shmuel Eliezer Ben Tzipora Odette רפאל חביב רחמים בן ציפורה עודד וזיווג הגון בעזרת השם לכל מי שצריך אליז חיה בת אישה אהרון משה בן אסתר צרה שיהיה להם בעזרת השם צורות טובות ישועות ונחמות מרצי ובת חקי une fois de plus à נתניה Je viens de rentrer d'un grand voyage et j'ai la voix un petit peu enrouée. Alors, veuillez me pardonner. J'avais une extinction de voix et là ça va mieux. Baruch Hashem. Amen. Toda Rabba. Toda Rabba. Rabotai, nous sommes dans une période charnière de l'histoire du peuple d'Israël et de l'histoire de l'humanité tout entière. Étant donné que nous sommes à la fin du sixième millénaire et que nous rentrons bientôt dans le Shabbat cosmique. C'est-à-dire que les six jours de la semaine que vous connaissez et le Shabbat qui suit se retrouvent aussi à l'étage de l'univers tout entier. Les 6000 ans de la création se terminent et nous sommes bientôt, Be'ezrat Hashem, dans le Shabbat. Ce qui veut dire que le Shabbat, de la même manière que vous vivez votre Shabbat dans la semaine, nous allons vivre bientôt un millénaire entier qui sera comme le Shabbat. Nous sommes à la fin, bientôt, du livre de Bereshit, du premier livre de la Torah. La conduite de ce monde ressemble pour Akadosh Baruch Hu et pour nous à un entonnoir. Cet entonnoir commence par une grandeur de possibilités, une multiplicité de possibilités, et tout doucement, ça converge pour aboutir à quelque chose de bien précis. Ce cheminement de contraction va donner naissance à l'apparition d'une forme humaine qui s'appelle Israël. Cet Israël était déjà dans Adam Harishon, mais il fallait un porteur de ce message dans le monde. Réellement. Avant d'être dans Adam Harishon, c'était la pensée divine. Donc la pensée divine, c'est de faire apparaître une notion qui va s'habiller dans une nation dont le rôle va être de traduire les valeurs de l'infini dans ce monde. Pourquoi faire ? Pour que ce monde puisse vivre selon les critères de l'infini. Et donc, Am Israël a été choisi avant même la création du monde pour remplir ce rôle de prophète. La prophétie n'est pas issue de l'homme, c'est l'Éternel qui prophétise quelqu'un qui lui fait bouger les lèvres. Ce n'est pas quelqu'un qui ouvre sa bouche et qui parle et qui essaye de contacter l'infini. Ça n'existe pas. C'est l'inverse. C'est l'infini qui fait parler le prophète ou la prophétesse en question. C'est-à-dire que ça ne vient pas de l'homme, ça vient de l'infini béni soit-il. Si ça venait de l'homme, ce serait limité à l'intelligence, à la structure cérébrale de l'homme, donc limitée. Étant donné que ça vient de l'infini, ce sont des valeurs qui sont absolument objectives et non pas subjectives. C'est la différence, c'est la grande différence entre le judaïsme et les religions. Le judaïsme n'est pas une religion. C'est une prophétie que l'Éternel a choisi de donner, de dire à travers nous. Et donc nous sommes le Magid, c'est-à-dire le porte-parole, qui va faire traduire les pensées de l'infini. C'est comme ça qu'il a choisi de créer le monde. Magid Devarav le Yaakov, Chukav ou Mishpatav le Israël. C'est-à-dire que l'Éternel va passer par la bouche du peuple d'Israël pour se dévoiler. Toutes ces lois, toute la structure volontaire de ce monde passe uniquement par Israël. On ne peut pas atteindre l'Éternel en court-circuitant le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui a été choisi par l'Éternel, béni soit-il, et c'est pour ça qu'il nous a donné la Torah à nous et pas à un autre peuple, pour que nous diffusions cette Torah aux nations du monde. Aucune nation n'a jamais inventé une histoire telle que le don de la Torah sur le mont Sinaï. Pourquoi ça a été donné à Israël? Mais c'est l'une des preuves que c'est ce peuple-là, et non pas un autre, qui a été choisi pour faire l'intermédiaire entre l'infini et le fini. C'est comme si nous étions une résistance entre le plus et le moins dans une lampe électrique. Quand vous allez acheter une lampe, vous demandez un chiffre. Je veux une lampe de 1000, je veux une lampe de 60, je veux une lampe de 70. Pour que le plus qui fait 70 ait en face de lui une résistance de 70. Et sinon, le plus arrive au moins et explose. Si la lumière divine arrivait dans le monde sans passer par la résistance Israël, le monde exploserait. Donc Israël, par sa nature, résiste comme une résistance à quoi? À la lumière de l'infini. Pas moins que cela. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire. Et donc il faut bien comprendre que nous sommes le seul peuple capable de résister, donc de faire passer cette intensité. Les nations qui voudraient court-circuiter, donc faire un circuit plus court, court-circuit, recevront la lumière, mais comme une lampe qui la reçoit une seule seconde, une fraction de seconde, et elles explosent immédiatement. C'est le noir total. C'est pourquoi aucune nation ne peut atteindre l'infini sans passer par Israël. Ce n'est pas une volonté qui vient de nous, c'est une directive infinie, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Koach ma'asav, hi guide les amo. La puissance de ses actes, il les fait passer, hi guide, c'est pas dire, ça vient du mot guidim, ce sont des tendons, c'est comme si nous, le peuple d'Israël, étions les tendons de l'infini. Les nerfs, c'est-à-dire le système nerveux d'Akadosh Baruch Hu, c'est Israël. C'est grâce à Israël que le système nerveux de l'infini se diffuse dans tous les muscles et dans toutes les parties du corps de l'humanité tout entière. Et au niveau minéral, et au niveau végétal, et au niveau animal, et au niveau des hommes. Donc nous sommes prophètes. Par nature, nous avons été créés prophètes au niveau de notre nation tout entière et au niveau des individus que nous sommes. Si vous n'avez pas encore développé ce muscle à l'intérieur de votre être, c'est parce que vous avez encore l'impression que vous n'êtes pas capable de le faire. Mais si vous aviez un petit peu plus confiance en vous, normalement, vous êtes constitué pour être prophète. Prophétesse. Parce que justement, pour éviter de nous brûler, Akadosh Baruch Hu nous demande d'abord d'activer ce muscle qui a été atrophié pendant 2000 ans et plus. C'est comme un muscle qui n'a pas fonctionné parce qu'il y avait un plâtre ou parce qu'il y avait quelque chose qui l'a paralysé ce muscle. Il faut une réadaptation, une rééducation. Donc nous sommes en ce moment dans la rééducation pour le renouvellement de la prophétie au sein de notre peuple. Ce qui veut dire que nous allons être de plus en plus cohérents, de plus en plus clairs dans les paroles qui vont sortir de nos bouches sans bégayer, sans se tromper. Et nous allons être des véhicules, des canaux pour la lumière divine. J'essaye de parler un langage simple et sain. La Torah, c'est pas des bouquins, c'est pas des livres, c'est pas des croyants. La Torah est une vie. Et malheureusement, lorsque nous l'avons fait descendre dans des livres seulement, on l'a cloisonné, on l'a sclérosé. La Torah doit sortir des livres maintenant et commencer à vivre dans vos vies. Il faut arrêter de croire que la Torah c'est une bibliothèque. La Torah a été recopiée dans des parchemins, mais la structure de la Torah existe bien avant le parchemin, puisque c'est avec elle que le monde fut créé, sans qu'il n'y ait ni livre, ni parchemin, ni quoi que ce soit. C'est tout simplement l'énergie de la vie. Et donc, pour dévoiler ce peuple d'Israël dans le monde, il faut passer par toute une série de contractions, comme la création d'un bébé. Vous entendez dans le mot contraction qu'il y a une contre-action. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient contrer l'action première. Et cette contre-action, c'est comme le degré de résistance, donc elle est contre-action. D'ailleurs, en hébreu, on l'appelle la résistance nagad, du mot neged, de la même manière que la femme est ezer kenegzo, c'est-à-dire la femme est la résistance de l'homme. Pour que l'homme se réalise, il doit passer par sa femme, qui est sa résistance, pour dévoiler ce qu'il a à donner dans ce monde. Au niveau cosmique, Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme, l'Assemblée d'Israël, c'est son épouse, et l'Assemblée d'Israël joue le même rôle qu'une femme devrait jouer au sein de son foyer. Donc nous sommes dans une multitude de tris pour arriver à concrétiser cette notion à Israël qui précédait le monde et lui donner une réalité dans ce monde, jusqu'à ce qu'apparaissent des hommes, des femmes, des enfants qui font partie de cette nation Israël. Jusqu'à ce moment-là, tout le monde peut dire que c'est lui, Israël. Pourquoi pas ? Nous savons qu'il y a une pensée divine, mais qui me dit que c'est toi qui es le porteur de cette pensée ? Peut-être que c'est moi. Et donc il y a eu multitude de nations, dont celle que vous connaissez bien, l'Égypte, qui a sous-entendu que c'était elle, le vrai Israël, et pas les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. Comment est-ce que ça se dit dans la Torah ? Eh bien, Paro dit, c'est moi l'aîné de l'histoire, donc l'aîné de Dieu. Alors que Dieu dit, Bni, Bechori, mon bien-aimé fils, premier-né, Israël, c'est Israël. Donc tu veux en réalité maintenant jouer avec moi. Tu es en train de me dire que c'est toi le premier-né, et moi je te dis que c'est Israël le premier-né. Il n'y a pas de souci. Petit exercice. Le vrai premier-né vivra, le faux premier-né mourra. Et donc il y a eu la plaie des premiers-nés, qui est la dernière plaie, avant la sortie d'Égypte. Pas pour frapper les premiers-nés, pour frapper l'Égypte qui pensait qu'elle était l'aînée de la pensée divine. C'est clair ? Ok. Moralité, Akadosh Baruch Hu va choisir cette nation D'abord par un homme qui va être porteur de tout ce système, qui s'appelle Abraham, mais pas complètement, puisqu'il va sortir de lui Ishmaël, et la continuité d'Israël continuera seulement par Yitzhak. Là aussi, les musulmans ont embrouillé tout le texte en nous faisant croire que c'est Ishmaël le continuateur de l'Esprit divin, comme les chrétiens dont le petit-fils maintenant, puisque Yitzhak lui aussi va engendrer deux enfants, Yaakov et Esav, Esav l'Occident. Donc l'Occident, la chrétienté, qui a toujours dit, c'est nous le vrai Israël, Verus Israël. Dans la cathédrale de Strasbourg, où il y a eu l'attentat hier soir, vous avez deux femmes sculptées à l'entrée de la porte de cette cathédrale qui s'appelle la Petite France. Il y a deux femmes en bas-relief, une qui se dresse majestueuse et une qui a la tête baissée avec un foulard qui lui cache les yeux. Et celle-ci s'appelle synagogue. C'est-à-dire Israël, vous, vous devez baisser les yeux, vous ne voyez plus rien. C'est nous maintenant, les chrétiens, qui avons pris le relais. L'histoire va nous donner raison, puisque elle va avancer, cette histoire. Et Akadosh Baruch Hu va toujours passer par Israël et celui qui est le vrai Israël, comment est-ce qu'on va le savoir? Eh bien, il reviendra sur sa terre. Donc, encore une raison de nous donner raison, que c'est nous, et donc les chrétiens et les autres vont tout faire pour nous dégager de cette terre, pour prouver que nous ne sommes pas le vrai Israël. Et donc, ils vont commencer à faire tout ce qu'ils peuvent, pour essayer de nous boycotter, pour essayer de nous casser, pour essayer de nous brimer, parce que nous sommes en train de contrarier leur religion. Donc c'est en train de se casser la figure. Alors ces nations vont dire, oui, peut-être que vous êtes rentrés sur la terre d'Israël, mais ce n'est pas définitif, on va vous dégager très vite. Baruch HaShem, ça n'a pas marché. Et non seulement on est rentré en Israël, mais 19 ans plus tard, on est rentré aussi à Jérusalem. Et là, c'est encore un os dans la gorge des nations, puisque celui qui rentrera à Jérusalem est en train de se rapprocher de la véritable identité divine. Donc on va tout faire pour nous dégager aussi du monde, du temple, en l'appelant l'esplanade des mosquées, et tout ce que vous entendez dans les informations. Peu importe, l'histoire d'Israël avance, et bien Bezrat Hashem, bientôt, nous aurons le troisième Beth Mikdash. Et ceci va clôturer l'histoire humaine complètement en donnant à Israël sa véritable place. Pour que Israël reçoive sa véritable place au sein des nations, il faut que les membres que vous êtes aient confiance dans leur identité. Si vous n'avez pas confiance de votre justesse et de la justice de vos actes et de ce pourquoi vous êtes là, si vous avez peur de dire que vous ressentez, eh bien, vous ne jouez pas encore votre rôle d'Israël, et ceci n'est pas bon, parce que c'est comme si vous vous êtes déplacé seulement territorialement, sans aboutir véritablement à votre structure et à votre retour vers votre identité première. Donc il faut commencer à ouvrir la bouche au sein des nations du monde, pas au niveau individuel seulement, mais au niveau de notre état. Puisque la mitzvah de la Torah, c'est pas de venir habiter en Israël, mais de fonder un état. C'est ça la mitzvah, qu'on appelle dans le langage de nos sages un royaume. Alors il vaut ce qu'il vaut ce royaume, et c'est un royaume d'Israël. Il y en a eu bien plus pire que celui-ci dans l'histoire, à commencer par Hanouka que vous avez fêté seulement la semaine dernière, eh bien, ce n'était pas un royaume extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons le royaume que nous avons, que nous méritons, et Léat, il va se bonifier, Et nous sommes dans une situation de dévoilement et de perpétuelle avancée, construction. On ne peut pas jeter à la poubelle un royaume qui est en train de se mettre en place, sous-entendu parce qu'il n'est pas religieux. Quand un enfant naît, il est ni religieux, il ne fait pas Birkat Amazon, il fait ses besoins, et pourtant vous ne le jetez pas à la poubelle, vous l'aidez à grandir. Eh bien, il faut aider votre état à grandir et à devenir ce qu'il devrait être, au lieu de toute la journée cracher dessus. Ce peuple d'Israël a donc un rôle à jouer au sein des nations. Et le prophète nous le dit, Jérémie 43, dites-lui que je ne suis pas là. Amzu yassar tili tehillati yassaperu. Ce peuple, je me le suis façonné pour moi-même. Yassar tili. C'est Dieu qui parle. Tehillati yassaperu. Pour qu'il raconte qui je suis. C'est-à-dire, nous sommes les raconteurs de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire raconter Dieu? Mais dire tout simplement ses valeurs. Comment est-ce qu'il faut, par exemple, manger? Comment est-ce qu'il faut, par exemple, marcher? Comment est-ce qu'il faut, par exemple, fonder un foyer? Comment est-ce qu'il faut, par exemple, fonder un état? Comment est-ce qu'il faut boire? Comment est-ce qu'il faut dormir? Comment est-ce qu'il faut se conduire tout simplement dans la vie en tant qu'homme? D'où est-ce que nous savons tout ça? La nature peut nous amener n'importe où. Eh bien, nous avons une structure divine qui nous a été donnée et qui règle en réalité nos pas selon les critères de l'infini. Et donc je dois me lever en considérant que c'est comme ça que je dois vivre. Aujourd'hui, toutes les informations du monde commencent à comprendre au niveau scientifique que la plus grande solution du sida, c'est de faire la Brit Mila au bébé. Alors maintenant, les adultes sont en train de faire la Brit Mila par dizaines de milliers. Okay? Et nous, qui disons ça depuis des millénaires, personne ne nous écoute, et tout doucement, tout va revenir à la Torah, et les gens vont se rendre compte que tout était déjà dans la Torah d'Israël. Donc, il faut un grain, une graine minimale, minimum. Cette graine minimum, pour que le peuple d'Israël commence, c'est un chiffre secret, c'est 70. Pourquoi 70? Parce qu'il y a dans le monde une dynamique de 70 nations. Et Israël équivaut aux 70 nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous sommes là pour révéler, pour dire, pour faire passer Agada, les Hagid, aux 70 nations, ce que nous avons reçu par l'infini. Vous avez compris? C'est facile. Est-ce qu'il y a un verset à ce que je suis en train de dire? Oui. Yatsev Gvulot Amim, il va mettre les frontières des nations, les Mispar Bnei Israël, par le chiffre des enfants d'Israël. Donc vous êtes 70 dans votre graine première, initiale, avant que le peuple commence à être un ensemble d'individus. Il y a une graine de 70 personnes. Et c'est avec ces 70 personnes qu'on va descendre où? En Égypte, parce qu'il faut que cette nation se révèle. Et ces 70 sont équivalents aux 70 nations du monde. Ça veut dire que vous prenez chaque individu de ceux qui sont descendus en Égypte, il correspond dans la vie à une des nations du monde. C'est comme ça que ça marche. Donc, Beshiv'im Nefesh, vous le dites dans la Haggadah de Pessah, 70 âmes, Yardou Israël Mitraïma. Les enfants d'Israël sont descendus en Égypte. Pourquoi il faut descendre en Égypte? Ah, grande question. Parce que c'est l'Égypte qui va être notre maman. C'est là-bas où nous allons être accouchés en tant que peuple. Ça veut dire, nous sommes certes rentrés 70 personnes, mais nous sommes sortis un peuple. Plus des personnes. Attention, ce n'est pas des personnes qui sont sorties d'Égypte, c'est un peuple qui est sorti d'Égypte. Donc nous sommes entrés personnes individuelles et nous sommes sortis peuple. Vous vous rendez compte du gain? Donc notre maman, c'est l'Égypte. Donc l'affaire d'Israël, ce n'est pas notre maman, c'est notre épouse. Quand vous venez sur la terre d'Israël, vous ne venez pas chez maman. Maman, ce sont les nations du monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui vivrait en France aujourd'hui ou aux États-Unis aujourd'hui, il a un complexe d'Œdipe qui n'a pas encore réglé. Il est encore chez sa maman. Il n'a pas compris qu'il faut quitter sa maman pour se marier. Al-Ken Ya'azov Ish et Aviv Ve'et Imo Ve'dabak Be'ishto Ve'hayu Le'basar Echad. Donc tant que nos frères, nos sœurs vivent encore en exil, ils font de la religion, mais ils ne vivent pas au sein de leur peuple. Attention, c'est très dur ce que je suis en train de dire. Et malheureusement, Ken, c'est un complexe non réglé. Deux choses sont donc à régler en Égypte. Et pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte est appelée dans le langage de nos sages Ervat Ha'aret, la nudité de la terre. Rabbi Nachman de Breslev Alav Shalom nous dit que toutes les nations du monde s'appellent Mitzrayim. La France, la Belgique, l'Arabie Saoudite ou les États-Unis ou l'Angleterre, c'est pareil, ça s'appelle Mitzrayim. D'accord? Comme ça dit Rabbi Nachman. Donc être en Égypte, c'est pas être dans le pays qui s'appelle Égypte, c'est être en dehors de la terre d'Israël. Moralité, et je vais dire quelque chose de très dur, Rabbi Nachman nous dit que, puisque nous n'avons pas le droit de prier en dehors de notre terre, Moshe Rabbeinu était obligé à chaque fois qu'il voulait s'adresser à Dieu, sortir d'Égypte, prier et revenir en Égypte. Et c'est pour ça que le texte de la Torah nous dit « Ve'haya ketzeti esa'ir efros kapay » Il fallait que je sorte de l'Égypte pour prier, puis revenir en Égypte, parce qu'il est impossible de se contacter véritablement aux valeurs de l'infini dans un pays étranger à notre structure naturelle. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ça veut dire que les sages nous disent que lorsque vous voulez prier de n'importe quel endroit dans le monde, il faut se focaliser sur la terre d'Israël dans votre pensée. Veit palelu elai derech arsam. Je vous cite des versets. Je ne vous sors pas des notions de la poche. Ce sont des versets. Quand ils me prieront, quand ils prieront vers moi, ils devront s'adresser à partir de leur terre. Et non pas n'importe où, n'importe comment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je ferme les yeux, même si je suis en dehors d'Israël, je dois me focaliser sur la terre d'Israël, sur le mont du Temple et sur l'endroit du Beth Amikdash, et de là-bas, je dois envoyer toutes mes filotes pour qu'elles montent. Le seul problème, c'est qu'il y a, comme aux frontières de chaque pays, des douaniers. Et les douaniers spirituels peuvent arrêter les filotes. Ce sont des anges qui font partie de la nation en question, qui peuvent, chas v'shalom, bloquer la tfila de l'homme qui prie à l'extérieur. Alors qu'en Eretz Israël, votre tfila monte immédiatement.
Excusez-moi, Rav. Quel? Quand Shabbat, on voit les restaurants ouverts.
Quel?
Sur le Kikar.
C'est ce que je vous ai dit, qu'il faut corriger, parce que la malchoute, la royauté que nous avons aujourd'hui, elle demande à être complétée. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du petit enfant qui fait ses besoins. Alors posez-moi la même question. Excusez-moi Rav, mais mon bébé, il fait ses besoins. Qu'est-ce que je fais? Je le jette avec les couches? Non, je jette la couche et je garde le bébé. Donc il faut corriger tout ça. Mais ça n'enlève rien du tout au fait que nous soyons sur notre terre dans un processus d'établissement et de rétablissement et de guérison. Nous sommes encore malades de 2000 ans. La preuve, je vous parle encore en français. Pourquoi est-ce qu'on doit descendre en Égypte? Ben tout simplement parce que le premier homme a fauté de deux fautes essentielles selon le Hari Akadosh. Et c'est ces deux fautes-là qu'il faut corriger. La première des fautes, c'est une faute correspondant à la Emouna, à la certitude. que ce que l'Éternel me dit, c'est la vérité absolue. Comment est-ce que le premier homme a fauté là-dedans? Ben, il a écouté la voix du serpent, pas la voix de l'éternité. Qui est le serpent? C'est pas un animal qui rampe. Le serpent, nous dit la Kabbalah, c'est la pensée logique de l'homme. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous écoutez vos pensées logiques, jusqu'à aujourd'hui, en mettant de côté la pensée divine pour une question bien précise, vous retombez dans la faute du serpent. C'est-à-dire que vous donnez priorité à votre intellect et vous ne donnez pas priorité à la vie qu'Akadosh Baruch Hu vous dit parce qu'il y a un manque de confiance. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter? Parce que si on pense qu'Adam Arishon a fauté, moi je suis tranquille. Non. Les fautes de Adam Arishon, Chas Veshalom, on peut les répéter tous les jours. À chaque fois que je prends une décision qui est plutôt ma logique et non pas sa volonté, je retombe dans cette faute d'avoir écouté le serpent. Deuxième faute, où est tombé le premier homme et où nous risquons de tomber, un petit peu moins les femmes que les hommes, mais vous avez compris déjà où je veux en venir, okay, c'est toutes les relations interdites. Alors, chez les hommes, c'est un petit peu plus délicat, ou beaucoup plus délicat, et en plus que nous sommes dans le sixième millénaire, où c'est réellement le tikkun, qui correspond à la Brit Mila chez l'homme, eh bien, Adam Arishon a eu des rapports avec son épouse avant l'entrée du Shabbat. C'était sa faute. Il fallait attendre le Shabbat, il fallait consommer de l'arbre de la vie avant d'avoir eu ce rapport. Sans rentrer maintenant dans tous les détails, ce sont les deux fautes qui en réalité doivent être corrigées. Où est-ce que ces fautes ont amené l'humanité? En Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte, vous comprenez que c'est une notion qui est en dehors du Kodesh. Et donc à chaque fois que nous fautons, c'est comme si nous perdons des plumes de notre être. Et ces plumes-là, où est-ce qu'elles vont? En Égypte. Qu'est-ce que c'est Égypte en hébreu? Une prison. Metsarim, Metsar, Sar, l'étroitesse, tout ce qui est étroit, Bet Sohar, Ken, Sar, Saros, des soucis. Donc Mitzrayim, c'est tout simplement l'endroit de l'étroitesse, de l'étouffement, de toutes les valeurs que tu as perdues dans ta vie qui sont tombées là-bas. C'est clair. Donc il faut maintenant descendre là où se trouvent ces étincelles, et qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Les récupérer et sortir en réalité au moment de la Géoula. C'est ce qu'on vont faire les enfants d'Israël qui vont devenir donc un peuple, et quand il va sortir, nous disons dans la Torah et dans la Gada et dans la prophétie, « Ve'achar kach yes'u berechush gadol » Ils vont sortir de là-bas avec un butin. Une grande richesse. Qu'est-ce que c'est que cette richesse? Eh bien, tous ces éléments qui ont été perdus, que nous devons récupérer en exil pour revenir avec sur notre terre. C'est ce que vous avez d'ailleurs fait en venant en Israël. Fait. En revenant en Eretz Israël. Vous avez ramené avec vous des étincelles de votre structure que vous avez pris là-bas. En France, en l'occurrence. Donc, quand vous revenez en Eretz Israël, vous ramenez avec vous vos étincelles, votre structure, des éléments qui se trouvent beaucoup plus en France que dans un autre pays, pour parler des Français, mais si je vais en Amérique, c'est encore autre chose. Alors, chez les Français, ça va être l'esthétique, ça va être la propreté, chez les Américains, autre chose, chez les Polonais, autre chose, chez les Marocains, autre chose, chez les Tunisiens, autre chose. Chacun va ramener en réalité des étincelles récupérées dans ses exils. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons tous maintenant en Eretz Israël avec une multitude d'éléments venus de 130 pays. Alors que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes sortis que d'un seul pays. Ce qui veut dire que la sortie d'aujourd'hui est beaucoup plus grande que la sortie d'Égypte. et que bientôt, dans la nouvelle Agada de Pessah, vous allez parler plus de votre sortie d'aujourd'hui que celle de l'Égypte. Celle de l'Égypte, ça va être une phrase. Yatsanu Mimitzrayim, un point à la ligne, et après tu vas commencer à raconter Yatsanu Mitzarfat, mi New York, mi Las Vegas. Et ça va être l'essentiel de la Haggadah, de la prochaine nouvelle Haggadah qui va sortir bientôt. Vous comprenez donc que le peuple d'Israël est censé maintenant récupérer toutes les fautes du premier homme. Travail énorme. Maintenant, je vais reprendre un petit peu ces deux fautes pour essayer de les éclaircir, pour ne pas que nous retombions dans ces mêmes erreurs, puisque la Torah ne parle pas au passé, elle parle au présent. La semaine dernière, si on a jeté Yosef dans le trou, ne croyez pas qu'on a jeté un bonhomme qui un jour, il y a 3000 ans, s'est trouvé avec des frères qui le haïssaient, ils l'ont jeté dans un trou. Il est très probable, j'espère que non, que certains d'entre nous aient, au même moment que nous avons lu cette paracha, aient encore jeté leur propre Yosef dans le trou. Parce que la Torah est un code, et si vous ne comprenez pas de quoi nous parlons, eh bien vous ne comprenez pas que vous continuez à faire la même faute en jetant votre propre Yosef dans le trou, qui est plein de serpents et plein de scorpions. Maintenant, je vous ai dit ce que c'était le serpent. Le serpent, c'est la pensée humaine, logique, cartésienne. Combien de fois on tombe là-dedans en se disant « mais c'est pas logique ce que tu me dis ». Et alors, mélanger le lait et la viande, c'est logique ? C'est pas logique d'attendre 6 heures, il y a une logique là-dedans ? Il y a une logique divine que tu ne comprends pas tout le temps. Et les scorpions, c'est quoi ? C'est l'inverse du serpent. Le serpent va te chauffer. Quand le serpent vous mord, le sang est chaud. Quand le scorpion vous pique, le sang est froid. C'est-à-dire qu'on a jeté Yosef dans deux possibilités. Ou bien on va le chauffer pour qu'il faute, ou bien on va le refroidir dans le service de Dieu. On va le paralyser. Vous comprenez que ce sont tous des codes. Donc moralité, à chaque fois que vous êtes, entre guillemets, ça se dit pas trop, Ken, vous vous chauffez pour des averot, ça retombe dans les serpents. À chaque fois que vous avez une angoisse, un petit peu plus, une dépression, chas v'shalom, une tristesse, une peur, une paralysie en fait, eh bien c'est comme la piqûre du scorpion. Donc on est tout le temps entre le serpent et le scorpion. Et il faut faire très attention. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces deux animaux ? Eh bien, on prend le serpent et on va le transformer. Nachash, c'est la même valeur numérique que Mashiach. Ça veut dire, je vais transformer cette chaleur pour faire quoi ? Eh bien, pour m'allumer pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Je vais utiliser cette chaleur, pas pour aller fauter, mais pour faire des mitzvot. Et comment est-ce que je peux transformer le scorpion ? Eh bien, je vais refroidir toutes les mauvaises pensées qui sont en moi. Celles-ci, oui, il faut les paralyser, les refroidir. Et en arrachant ces mauvaises pensées, je peux encore une fois revenir vers mon identité.
Comment on peut faire pour arracher ?
C'est un travail. C'est pour ça que le mot scorpion, en hébreu, akrav, c'est où ? Karbaït, il a arraché la maison, chas v'shalom. Ou bien Ikarbaït, c'est l'essentiel de la maison. Donc il faut prendre la force du scorpion et reconstruire sa maison. Et au niveau individuel, mon corps c'est ma maison, la maison de mon âme. Après ma femme, c'est la maison de l'homme. Et après il y a la maison du couple. Après il y a la maison de la nation. Et à la maison de l'humanité, et à la maison du cosmos, et ainsi de suite. Tout le temps, ça grandit. Chaque fois, quelqu'un est la maison pour autre chose. Ce verre est la maison de l'eau. D'accord ? Et maintenant, nous allons comprendre comment ce serpent, qui se dit en hébreu, donc la logique, Higayon, dans le mot Higayon, vous entendez quoi ? Le mot, je vous aide un peu, Hege. Qu'est-ce que c'est Hege ? Un volant. Higayon, donc je conduis ma vie, Yon. Comment vous pouvez lire Yon différemment ? Yavan. La Grèce. Donc, je me conduis dans le monde comme les Grecs. Donc, comment se conduisaient les Grecs ? Avec la logique, avec l'intelligence humaine. Si ça dépassait l'intelligence, c'était à bannir. Donc, moralité, beaucoup de gens qui ne sont pas Grecs, qui sont loin de cette histoire, se conduisent encore comme des Grecs, avec l'hellénisme propre à cette nation. Comprenez ? C'est incroyable. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il va falloir sortir de tout ça, il va falloir corriger tout ça. Et qu'est-ce qu'a dit le serpent réellement au premier homme avant qu'il ne faute ? Il a raconté une histoire. Et pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ? L'inviter au resto. Donc le premier serpent de l'histoire, ce qui est allogique, elle t'a invité au restaurant, et elle t'a offert pas de pommes. La pomme, c'est pas de chez nous, je suis désolé. Ken, chez nous, c'est tout sauf la pomme. La pomme, c'est le tikkun. Donc ça, vous l'avez pris malheureusement après 2000 ans d'exil. Mais peu importe. Ah, il faut étudier la Gemara. C'est Chita, c'est Ora, Geffen, Teena, Rimon, toutes les fruits de la terre d'Israël. Mais pas Tapouah. C'est devenu même la pomme d'Adam. Okay. Top. On revient à nos structures. Qu'a dit le serpent au restaurant à Adam Arishon ? Donc c'est un type avec lui-même, hein, il est tout seul. C'est pas un serpent qui est dehors, qui lui dit okay, « J'ai envie de te séduire ». T'es tout seul. Le matin en te levant, le soir en allant dormir, t'es avec ton propre serpent et il te fait ce à l'intérieur de toi-même. Il te dit « Allez, laisse tomber, qu'est-ce que tu crois ? Dieu, il était comme toi. Dieu était comme toi. » Un jour, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mangé lui aussi. Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. T'as pas envie toi aussi de devenir Dieu ? C'est ça que le serpent a dit. C'est dans le texte de la Torah, je ne vous invente rien. « Vitem ke Elohim, yod'et tovara » Tu vas devenir comme Dieu, tu vas savoir où est le bien et le mal. Waouh ! Quand on te dit aujourd'hui, c'est devenu une expression, non ? En français, c'est un dieu le mec. Ah là là, il joue comme un dieu. Hein ? Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Mais ça veut dire quoi ? Si je pousse en profondeur, ça veut dire tout simplement, on te dit tu vas devenir le top niveau du maximum, tu vas devenir comme lui. Donc si je deviens comme lui, je n'ai plus besoin de lui. C'est moi, lui. Le nouveau lui, c'est moi. Chas v'shalom. Eh bien, c'est ce que le Nahash a dit au premier homme. Vitem ke Elohim. Ki odea Elohim. Et Dieu a peur que tu deviennes comme lui, parce qu'il y a la concurrence. Donc mange, consomme, et tu verras que tu deviendras grand. On vous dit aujourd'hui, consommez, nous sommes dans un monde de consommation, si j'ouvre vos armoires, ce sont des magasins. Tu as 200 paires de chaussures et tu repars encore acheter une autre. Incroyable. Je parle d'une manière générale. Vous entendez combien rit. Chava, c'est la partie féminine de l'homme. C'est-à-dire c'est l'homme lui-même, avec sa partie féminine. Pourquoi la partie féminine? Parce que c'est sa maison. Donc, c'est plus facile de s'adresser à mon corps, à mon âme. Puisque la maison, c'est mon corps, donc le serpent qui est ma pensée s'est adressé à qui? À mon corps. C'est plus facile d'entendre les besoins du corps que les besoins de l'âme. Si vous alliez au magasin acheter des éléments pour l'âme autant que vous achetez des éléments pour le corps, alors d'accord, c'est pas un jeu de mots. Encore et encore. Donc en réalité, c'est plus facile de s'adresser au corps. Donc le corps s'appelle Chava. Pourquoi il s'appelle Chava d'ailleurs? Vous croyez que c'est son prénom? Chava en hébreu veut dire ressenti, Chavaya, Anichové. Je ressens la chose, c'est un kiff, j'ai un plaisir. En araméen, chivia, traduction, serpent. Donc, chavaya, chava, c'est le serpent. Donc, comment est-ce que ça s'appelait avant de tomber dans le contexte serpentesque? Non, chaya, la vie. La vie, mais comme le yud est tombé, c'est devenu chava. Où est-ce que le Yud va tomber? Eh bien, comme dans le mot que je vous ai dit tout à l'heure, Yavan, le Yud est tombé, devenu un Vav, le Vav est tombé, devenu un Nun, Yavan. Yud, Vav, Nun. Vous avez compris ce que c'est Yavan? C'est pas la Grèce, c'est la Grèce. C'est tombé au niveau du corps, tout le temps, ce que vous entendez, ce sont les appels du corps. Et ce sont des appels qui ne s'arrêtent jamais. Dans la Kabbalah, on appelle cette faute-là, Melachim Kadmaim, les rois d'avant. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un cours à part entière de Kabbalah, mais d'une manière simple, le Baal Shem Tov, Alav HaShalom, Sfutot Agen Alenu, a dit que Mikre HaMelachim, pourquoi on les appelle Melachim? Parce que chacun a cru que c'était lui, le roi. Donc il s'est dit, c'est moi le roi. Ana Emloch, c'est moi le roi. À la place de qui? Du roi, du Saint des Saints, béni soit-il. Donc lorsque tu te prends pour le roi, il faut t'obéir. Si on ne fait pas ce que tu veux, tu t'énerves. Ça vous arrive de vous énerver parce qu'on n'écoute pas ce que vous dites? Dangereux. Sous-entendu, c'est moi le roi de l'univers, j'ai raison. C'est impossible que tu ne fasses pas ce que je suis en train de te dire. L'ego. Donc, là où il y a l'ego, se trouve le nahash, se trouve l'orgueil, se trouve la colère, comme par hasard le moi de Tevet, dans lequel nous sommes maintenant, qui a commencé il y a 3 jours, eh bien, l'essentiel, c'est la colère, qu'il faut corriger. C'est-à-dire, ce mois-ci, on peut se mettre en colère plus facilement. Mais si tu ne sais pas cette information, tu vas tomber, Chas v'Shalom, dans le piège. Donc, pourquoi on l'appelle Tevet? Pour améliorer, pour rendre bon. Tevet, l'Hétiv, rendre tôt. D'où est-ce que vient cette faute-là? Nous ne voyons pas l'univers comme un ensemble. Nous voyons tout comme un ensemble de points. Nous ne voyons pas l'unité. On ne voit pas l'unité divine dans ce monde. On a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans certains endroits, mais dans certains endroits ou dans certaines situations, non. La preuve, c'est qu'on a peur. Quand on a peur de quelque chose, c'est qu'on a intuitivement à l'intérieur de nous l'impression que là, dans cet extrait de temps, Dieu n'est pas. Sinon, tu n'aurais pas eu peur. Je suis en train de toucher des points sensibles, attention là. À chaque fois qu'on a un manque de confiance, qu'on tombe dans une déprime, c'est qu'au moment où je suis en train de penser ce que je pense, Dieu n'existe pas, je suis dans le noir total. Chas v'shalom. Je suis en train de dire qu'à chaque fois que vous avez un manque de confiance, une peur, un doute, ou n'importe quel degré de ce genre-là, c'est que dans ce moment précis ou dans cette situation précise, vous avez en réalité sorti Dieu. Parce que si Dieu était là, vous auriez eu la lumière, vous auriez dit, mais pas du tout, il est là. Même dans ce point de noir, pas possible. Il n'y a pas un point dans cet univers, il n'y a pas un recoin dans cet univers où Dieu n'est pas. Et si j'ai peur, c'est que je considère qu'il n'est pas là. Quel?
Comment on peut expliquer?
Eh bien, on peut expliquer par beaucoup de choses. Vous êtes en train de me dire, il y a eu l'attentat. Je suis obligé de vous demander lequel. Malheureusement. Il y en a plein. Ça veut dire que nous avons encore des doutes de ce que nous sommes, d'une manière globale. Ce n'est pas que la personne en question, la pauvre, avait un doute. Mais nous n'avons pas encore cette conscience que l'infini béni soit-il est là. Qu'il est remplissant les mondes, mais malé kol almin, entourant tout l'univers, sauver kol almin. Les enfants de Yaakov ont dit à leur papa Yaakov, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un texte qu'on dit le soir, on dit le schéma. On dit pas le schéma. C'est un schéma d'abord, c'est pas un schéma. Et ce schéma là, ça veut dire que quoi? Qu'il n'y a pas dans ce monde un endroit vide de son unité, Echad. Et Yaakov, il a rajouté quelque chose sur la parole de ses enfants. Il leur a dit, oui, mais c'est pas suffisant. Il faut que ce soit ici en bas, pas dans les cieux. Baruch Shem, kevod malchuto le'olam va'ed. Vous avez raison, mes enfants, mais je vais vous rajouter une couche. Tout ce que vous dites, ça doit être ici, dans la malchoute, dans la royauté, c'est-à-dire dans la partie basse dans notre vie. Jusqu'à aujourd'hui, vous dites Baruch Shem à voix basse. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas encore dévoilé totalement dans notre terre. Alors on est obligé de se taire. Et il y a des retardataires. Et des secrets d'air. Et il faut justement faire en sorte de dévoiler, c'est pour ça que vous êtes là pour étudier, eh bien, Ezrat Hashem, pour faire descendre, pour faire dévoiler ce qui est dans l'infini, ici, bas, dans la partie basse de votre corps, à partir de vos nombrils, jusqu'en bas. Je vais vous poser une question indiscrète. À quelle hauteur vous avez allumer la menorah de Hanouka. Il fallait l'allumer plus bas que votre nombril. Eh oui. C'est pas pour voir à l'extérieur. L'extérieur, c'est l'extérieur de votre corps, c'est-à-dire vos pieds, vos jambes. Si vous voulez être guéri de vos jambes, il faut se baisser pour allumer la menorah de la Hanouka. Parce que le pirsoum du nez, c'est pas de le faire voir dans les rues. C'est tout simplement que votre partie basse du corps reçoive les éléments de la partie haute. C'est-à-dire que la pensée doit se véhiculer vers les pieds. Vous êtes là pour écouter des choses que vous n'avez jamais entendues, j'espère. C'est-à-dire, l'année prochaine, si Dieu veut, en bonne santé. Non. Ça c'est la halakha. La halakha, et selon la Kabbalah, il faut l'allumer à trois poignées du sol pour l'instant. Bientôt ça va être à même le sol, Be'ezrat Hashem. Ça veut dire que la lumière va toucher le sol. Il faut que cette lumière touche le sol. Pour l'instant, elle ne touche pas encore le sol. Donc c'est à trois poignées du sol, c'est à cette hauteur. C'est pas encore normal. Il y a un seul jour dans l'année où le feu touche le sol. C'est l'Ag BaOmer. Pourquoi? C'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle est capable de toucher le sol. Mais la lumière de Hanouka, elle devrait toucher le sol. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais presque. Mais il faut que ce soit dans la partie basse de votre vie. C'est ça la véritable éducation. Hanouka, Chinour. Qui tu éduques? Tu éduques tes jambes. Vous devez éduquer la partie basse de vos corps. Du nombril vers le bas, c'est le monde de la matière. Du nombril vers le haut,
c'est l'infini. Moshe Rabbeinu, les sages nous disent, Chetzio Vamala Elohim, Chetzio Vemata Adam. De la moitié vers le bas, il était homme, de la moitié vers le haut, il était divin. C'est comme ça qu'on doit être. Et le divin qui est en nous, c'est la partie haute, doit venir donner à la partie basse toute sa lumière. Sinon, on a des problèmes de jambes. C'est pas une faute, ce sont des coutumes, mais si vous voulez savoir la véritable mitzvah, et celle que vous allumez à la fenêtre, vous pouvez allumer une deuxième, mais juste pour le fun. Mais vadaï, c'est comme ça que ça doit être. Si, je viens de le faire. Donc, on continue. Si vous pensez à un moment donné dans votre vie que vous avez une existence propre qui n'est pas celle du divin qui vous fait vivre, vous êtes déjà dans un problème. Mais parce que vous parlez en même temps. Pas vous, je parle de tout le monde. Vous êtes sûr que c'est 2 heures le cours? Non, parce que au niveau de la concentration, je sais que c'est pas évident. C'est 1h30. Il y a toujours des petites questions, mais elles sont déjà en plein milieu, donc...
C'est en fonction de vous.
Ok. Écoutez, parce que ce sont des choses importantes, pas parce que c'est moi qui les dis, tout simplement, c'est Akadosh Baruch Hu. Si vous avez l'impression que vous vivez de vous-même, vous êtes dans un problème très grave. Ce qui vous fait vivre, c'est le divin. Ce qui nous fait vivre, c'est le divin. C'est pour ça qu'on l'appelle le nom de la vie. Shem Havaya. Ça veut dire Havaya. C'est le nom de l'être. C'est-à-dire, je suis vivant parce que je vis l'éternel. Et donc, il y a des gens qui sont plus ou moins vivants. Ou plus ou moins morts. Plus tu vis l'éternel, plus tu es vivant. Donc, plus tu es vital. Moins tu vis l'éternel, plus tu es mort. Comment je peux ne pas vivre l'éternel en étant triste? Quelqu'un qui est dans la tristesse, en réalité, il a jeté l'éternité de lui. Donc il est dans l'angoisse. Donc il est emprisonné maintenant. Et donc il vit moins. Si je devais mettre un thermomètre, un baromètre de sa vitalité, sur 10, il est peut-être 1 ou 2. À 0, il est mort. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui vivent 10 sur 10. C'est-à-dire, ils vivent le divin complètement. Donc, ils n'ont peur de rien. Parce qu'ils sont conscients constamment qu'Akadosh Baruch Hu est là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Nous sommes des hommes, nous sommes dans un monde avec des dangers. Il faut faire attention et si on doit prendre une arme, il faut la prendre. Et si on voit un danger, il faut intervenir. Et si on voit un terroriste, il faut le liquider. Sans avoir peur, sans avoir honte. Mais en même temps, avoir confiance que tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait à travers moi. C'est-à-dire qu'il m'utilise pour faire passer ses valeurs. On l'avait dit au début du chiot. Quand on dit que Dieu va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu a des pieds? Vous lui donnez une forme humaine, Chas v'shalom, il chausse combien? Ça veut dire tout simplement que les soldats d'Israël un jour vont poser leurs pieds sur le mont des Oliviers. Et comme ça a été déjà en 68, eh bien on peut dire que Dieu a réellement réalisé sa prophétie. Un jour je poserai mes pieds sur le mont des Oliviers. Il l'a fait. À travers nos soldats. Quand Dieu dit, je vais ramener ma sainteté à Sion, comment est-ce qu'il le fait? Parce que vous avez fait votre alliance. Donc c'est lui qui est revenu. Donc vous l'avez ramené sur terre. Vous comprenez comment ça marche? Vous croyez que vous allez voir Dieu, il y a des phénomènes, vous croyez qu'il y a un talit qui va descendre du ciel, je ne comprends pas. Il y a des gens qui vivent dans un fantasme messianique maladif. Il faut arrêter, il y a des gens qui sont perturbés, chas v'shalom. Il faut un petit poule choresh. Rabotai, Akadosh Baruch Hu se dévoile dans les événements de l'histoire, c'est tout. Tout ce que vous voyez dans les informations du jour, c'est Akadosh Baruch Hu.
C'est quoi les dévoilements que vous voyez sur la période que nous on est en train de vivre?
Et bien justement, que le peuple d'Israël est en train d'être poussé, acculé à quoi? À revenir sur sa terre. Et il ne comprend pas. Il lève ses valises, il les repose. Il lève ses valises, il les repose. Et il retarde la Géoula.
Voilà.
Shlema. Oui, je viens de rentrer.
Comment
il réagit? Ça dépend. Ça dépend. Où on est. Où on est serviteur d'une chita, où on est serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je ne veux pas être serviteur d'aucune chita. Je veux être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu et de dire la vérité que la Torah me dit. Alors, vous êtes venu m'écouter à moi. Donc, je vous dis ce que moi je pense. C'est tout. Je ne parle de personne d'autre.
Israël, et qui sont revenus 40 couples.
Ok.
40 couples.
Et alors
sont
je connais moi 40 000 qui ne sont pas revenus. Et alors c'est l'histoire du peuple d'Israël. Et alors quand vous allez à Rami Lévi ou je ne sais pas où vous faites vos courses, 99% de tout ce que vous avez mangé, vous le rejetez. Et alors et pourtant vous êtes vivante. Imaginez-vous si on était aussi gros que ce que nous mangions. Alors j'ai fait le calcul un jour. On mange 70 tonnes de nourriture dans notre vie. C'est-à-dire c'est le bateau, le Queen Elizabeth. Alors imaginez-vous, quand on quitte ce monde, on ne fait même pas 50 kilos. Hachem Yerachem. Alors c'est pas dommage pour toute cette nourriture? On dirait des mystères. On rentre, ça sort, on rentre, ça sort, et quoi? Mais c'est comme ça, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent. On ne peut pas faire des calculs comme ça. Il ne faut pas voir toujours le côté, le verre à moitié vide. Très bien. Je continue. Il faut faire très attention, donc il faut mettre Akadosh Baruch Hu. Et donc Akadosh Baruch Hu, il est bel et bien dans ce processus. Il est là, il nous accompagne, Baruch Hashem. Nous sommes en train d'avancer à grands pas vers toutes ces... Et encore une fois, il y a des choses à arranger. Vous avez raison. Et vous aussi. Vous avez raison. Il y a des choses à arranger. Mais ce n'est pas pour autant que je laisse tomber. Parce que c'est dire, oui, mais quand même, le bébé qui vient de naître, c'est pas comme je croyais. Il pleure souvent. Moi, ça me dérange. C'est pas social, je peux pas dormir la nuit. Et ça sent mauvais. Je peux pas. Et combien de couches? Combien? Je vais monter une usine. Je lui parle, il fait pipi. Je lui parle, il fait autre chose. Il sait même pas me parler. Il me dit blablabla. C'est quoi ça? On m'a pas promis une chose pareille. Alors écoutez, moi ça me convient pas, je m'en vais. On fait ça, chas v'shalom. On a de la patience. On a de la patience. On fait grandir. Pardon ?
On ne fait pas parce qu'on est conditionné et qu'on a bénéficié de l'exemple des gens qui ont eu cette expérience.
Eh bien, c'est exactement la même chose. La Géoula, on l'a déjà vécu.
Mais oui,
mais
peut-être dans des...
Dans votre conscience, le désir du bonheur que vous désirez, c'est déjà la Géoula, vous l'avez déjà goûté un jour. C'est pour ça que vous avez envie d'y revenir.
Et vous mettez le curseur entre la Emouna et la Ishtadout?
Il y a une Ishtadout, même dans la Emouna. Eh bien, je dois tout faire pour faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu se réalise. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, je redonne l'exemple de tout à l'heure, m'a dit, un jour je reviendrai à Sion. Alors qu'est-ce que je lui dis? De deux choses l'une. Ou Akadosh Baruch Hu, je vais te rendre menteur, je ne vais pas faire mon alia. Ou bien Akadosh Baruch Hu, je vais te rendre glorifié dans le monde, je vais faire mon alia, comme ça ta prophétie elle se réalise, et je pourrai dire aux gens, regardez, ce qu'il a dit c'est vrai. C'est tout. Moralité, il y a ce degré, vous savez c'est difficile de parler pour des gens qui ne sont pas ici, parce qu'ils sont toujours avec le sentiment de défendre la branche sur laquelle ils sont assis, je comprends. C'est mal à faute. Moi, je donne mon chiour, après vous faites ce que vous voulez avec. Mais c'est déjà marqué dans le carnet que vous avez entendu ces paroles un jour. Ça veut dire que c'est important et que c'est... Ça veut dire que c'est important et qu'on ne peut pas dire « je n'ai jamais entendu ça ». Donc cette pensée-là doit remplir notre vie. Mais pour arriver à ça, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup et encore beaucoup d'humilité. L'humilité, c'est quoi ? C'est pas dire « moi je ne sais rien », pas du tout. Ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, je dois dire « merci ». Et je dois le vivre. Parce que si je ne vis pas ce qu'il m'a donné, au contraire, je vis en deçà de ma véritable grandeur. Et là, je suis fauteur. Parce que fauter, c'est pas ne pas faire sa volonté seulement. Fauter, c'est ne pas vivre à sa véritable hauteur. C'est-à-dire à te prendre pour plus petit que ce que tu es, ou pour plus grand que ce que tu es. Mais tu dois vivre ce que tu es. Donc tu ne dois pas te mentir. Donc arrêtez de dire « moi je ne connais rien, je suis un zéro, je suis un nul ». C'est pas vrai. Sinon ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé une nullité dans ce monde. Et ça c'est bafouer son nom. Alors il faut tout simplement savoir ses qualités. Akadosh Baruch Hu m'a donné des qualités, j'en suis conscient, je le dis et je lui dis merci d'être artiste. Donc je vais rentrer dans mon atelier et je vais faire des peintures d'art. Et je vais remercier Akadosh Baruch Hu pour ce cadeau. Mais je ne vais pas dire tous les jours, je suis un naze, je suis un nul. Ça ne veut rien dire ça. Akadosh Baruch Hu m'a donné la possibilité de parler. Eh bien je vais faire des voyages qui me font lever à 4h du matin pour arriver ici à l'heure et pour parler devant un kahal. Je ne peux pas dire que je suis nul, non. Akadosh Baruch Hu m'a donné cette qualité de pouvoir parler et de faire passer un message. Il faut que je sois conscient de ce degré. Dites-lui, je suis toujours pas là. Hein. Parce qu'il essaie de tous les côtés. Pour... Donc mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit ? Venachnu ma. Qu'est-ce que ça veut dire, Venachnu ma ? Pas qu'est-ce qu'on est. On est quoi ? C'est pas une question... C'est une réponse. On est une question. On est ma. On est une question. Pour l'infini béni soit-il. Être une question, c'est quoi? Quand vous posez une question, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites? Vous creusez un trou. Vous êtes à vide. Vous creusez un trou, vous êtes à vide. Donc moi je dois vous rendre à plein. C'est-à-dire que je dois remplir ce vide. Donc en hébreu, She'ela vient du mot She'ol. C'est un grand vide. Donc quand je pose une She'ela, il y a déjà une Teshuvah. Elle attendait juste la bonne question, pas la réponse. La réponse elle existe. La bonne question, la réponse elle existe. La seule réponse à toutes les questions, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais si tu ne sais pas poser la question, tu n'as pas creusé le bon creux. Et si tu creuses le bon creux, maintenant on peut remplir d'eau. Te donner la réponse. Mais la réponse existe déjà. La réponse à toutes les questions, c'est Akadosh Baruch Hu Tshuva Kadma Laolam. Traité de Psachim 54. Pardon. Donc la Teshuva a précédé le monde. Moralité. Nous devons nous poser les bonnes questions. Et mon cher Rabbeinu nous dit, nous sommes des questions. Donc, quelle est la valeur numérique de l'homme ? Ma. 45. Ma. C'est la valeur numérique de l'homme en hébreu, c'est incroyable. Adam égale ma. Donc, je suis un grand ma. Qu'est-ce que c'est ma ? J'ai dit un quoi ? Mais plus que ça, qu'est-ce que ça veut dire ma ? C'est un vide, oui, mais... Non, ça, vous employez le mot ma. Non, c'est un jeu de mots ça. Ma, tout simplement. C'est difficile, je sais que c'est difficile. Pour ceux qui parlent l'arabe, c'est plus facile. C'est quoi ma? Bien fait, c'est de l'eau. Donc ma, comme en arabe, le ma. c'est pas, ça fait pas partie du mot l. C'est comme le ma, l'ma. Mais c'est le mot, c'est ma. Et au pluriel, c'est ma'im. C'est tout, je rajoute juste un yud. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est être ma? Être comme l'eau. Quelle est la propriété de l'eau? Arrêtez d'être religieux. Quelle est la propriété de l'eau? Elle s'adapte, elle est bicha, elle est souple, elle est malléable. Elle ne se pose pas de questions, la forme que tu veux, elle prend. C'est extraordinaire d'être comme ça. Si le verre est strié, eh bien l'eau va prendre la forme des striures. C'est incroyable ça, regardez quelle humilité. Ça, c'est être humble. Et quand tu es humble, tu peux recevoir la totalité parce que tu ne bloques rien. Et c'est pour ça que celui qui a reçu le plus de Torah était le plus humble, comme par hasard, Moshe Rabbeinu. Donc dans le mot Moshe, qu'est-ce qu'il y a? Ma. Et il reste la lettre Shin. Alors? Okay. Donc, ça veut dire quoi? Le Shin, c'est en réalité l'équilibre. Comment est-ce qu'on construit la lettre Shin en hébreu? Trois vaves. Eh bien, c'est Vav pour Abraham, Vav pour Yitzhak et Vav pour Yaakov. Ça veut dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont à l'intérieur de Moshe, qui est en réalité le Ma, la grande question de l'univers. Quelle est la valeur numérique de Ma? 45. Qu'est-ce que c'est que la lettre dont l'angle est à 45 degrés?
Le rectangle.
45 degrés, un angle de 45 degrés, ça c'est 90, 45 degrés, Aleph, 45 degrés c'est une diagonale, rabotaille, vous êtes en train de me dire le reste c'est 90 degrés, pour revenir un petit peu au maths. 45 degrés c'est la lettre Aleph. C'est un angle à 45 degrés. C'est la seule lettre. Vous voyez qu'il y a un angle à 45 degrés? Eh bien, c'est le Aleph. Le Aleph, en réalité, c'est l'univers, c'est l'infini, c'est le Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, qui se trouve dans notre sang. Et si vous prenez le Aleph dans le sang, dans le Dam, ça donne Adam. C'est ça le Adam. C'est tout simplement le divin qui est en nous. Donc on doit sortir de la faute, première faute de Adam Arishon. J'avance un petit peu vite parce que je vais terminer. Deuxième faute de Adam Arishon, nous avons dit que c'était les relations interdites. Les relations interdites, ce n'est pas seulement les relations sexuelles interdites, c'est aussi les relations où on ne sait plus faire les liens entre les uns et les autres. On n'a plus de relations, chacun pense qu'à lui. On devient des égoïstes. On n'a plus la notion de peuple, on n'a plus la notion de âme. Aujourd'hui, Baruch HaShem, c'est en train de revenir. Et surtout quand on prie pour nos soldats, on sent qu'ils se battent pour nous. On sent qu'on est une seule et même unité. Et ceux qui prient pour nous, ceux qui étudient pour nous, on sent qu'il y a une unité. Et de plus en plus, elle va se reformer, cette unité. Eh bien ça, c'est ce qu'avait perdu en réalité le premier homme, c'est les liens. Donc lorsque les liens ne sont plus là, le monde devient un ensemble de détails. Et un ensemble de détails, c'est un ensemble de points. Donc vous ne voyez plus rien. Je rentre dans cette classe, je ne vois que des points. Alors que je devrais me dire, ce sont des filles d'Israël, elles font partie du peuple d'Israël, je vois les choses en beaucoup plus grand, en beaucoup plus large. Si je ne vois que des points, je ne peux rien gérer dans ma vie, rabotaille. Eh bien, ces deux degrés-là, c'est en réalité ce que HaKadosh Baruch Hu nous demande de corriger pour remonter de l'Égypte, sortir de l'Égypte, et ceux qui ne restent que des points ne pourront jamais sortir d'Égypte. Combien sont sortis d'Égypte? 20%. 20%. C'est fini. Donc, il faut faire attention, l'histoire se répète malheureusement, et nous prions pour que le peuple d'Israël ne soit pas que 20%, mais 100%. et que ceux qui ne sont pas encore avec nous ici arrivent à Ezrat Hashem, il faut prier pour eux avec beaucoup d'amour et de bonté. Fini, ce sont des points individuels, donc ils se sont perdus dans l'assimilation. Vous êtes là? Si, vous êtes là. Vous êtes là, vous avez fait votre alia. Vous êtes là, vous avez fait votre alia. Baruch HaShem, de plus en plus de gens montent. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est tout simplement revenir sur la terre d'Israël et après dévoiler les valeurs du divin. Donc, Bitruta Emuna, Yatsu Israël Mimitzraim, grâce à la Emuna, nous sommes sortis d'Égypte. La preuve, c'est que Paro n'est pas sorti. Donc Paro, c'est quoi? C'est la définition de quoi? Du point. Paro, c'est un point. Il ne voit pas l'entité. Comment ça s'exprime? Il a toujours de mauvaises paroles. Donc vous prenez les lettres de Paro, c'est P-Ra. La bouche que dans le mal, toujours. C'est-à-dire, il voit que le mal partout. P-Ra. Alors que Moshe, c'est celui qui a gagné Paro. Je vous ai dit, c'était Ma. C'est celui qui ouvre. Celui qui coule comme de l'eau. Donc il va sortir. Donc Moshe et Paro, ce sont deux acteurs qui sont dans chacun de nous. Ou vous donnez la priorité à votre Paro et vous allez rester Chas v'Shalom en Égypte. Ou bien vous donnez la propriété, la priorité à votre Moshe et vous allez sortir d'Égypte. Et c'est pour ça que maintenant vous comprenez, Moshe qui min hamaim meshiti, où je l'ai tiré d'où? Des eaux. Donc Moshe et l'eau, c'est une seule et même chose. Moralité, nous allons arriver à un degré où l'unité Be'ezrat Hashem va être retrouvée. Tout ceci pour vous dire que en Égypte sont tombées toutes les Neshamot qui ont fauté lorsqu'elles étaient incluses dans Adam Arishon et vont descendre des éléments vivants, dont Yosef qui représente la Brit Mila, qui va être en premier là-bas, pour corriger la faute des relations interdites. Yosef, dans le corps de l'homme, c'est le Brit. Donc il faut corriger Yosef et ne pas le jeter dans n'importe quel trou. Okay? Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Okay? Hola. Et en réalité, tout ceci est une correction contre Naaseh Venishma. Le Naaseh Venishma, le Naaseh, c'est au niveau des relations interdites. Et le Nishma, c'est au niveau de notre Emouna en Akadosh Baruch Hu. Je clôture en ramenant tout ça aux rêves. Les rêves que vous avez lus pendant toutes ces Shabbatot, ce sont des rêves qui sont avec ces deux degrés. Il y a chaque fois dans chaque rêve, n'importe lequel, il y a un degré de Emouna, donc du serpent que tu ne dois pas écouter, et l'autre, un degré de Brit Mila, des relations interdites que tu dois faire attention de ne pas tomber dedans. Exemple, le rêve de Yosef. Premier rêve de Yosef, c'est Me'almim Alumim. Ce sont des gerbes, des épis. En hébreu, Alumim, ça vient du mot Mila, Brit Mila. Donc, Yosef rêve des frères qui sont comme des Brit Mila autour et lui est au milieu. Ça veut dire, je suis là pour corriger en réalité ce qui a été endommagé. Deuxième rêve de Yosef, c'est... Non. De Yosef, pas de Pharaon. Les étoiles. C'est quoi étoiles? Avodat Kochavim, c'est la Avodat Zara au niveau de la tête. Si tu sers les étoiles ou tu sers Dieu. Vous voyez, il y a les deux degrés. Est-ce que je tombe dans la Avodat Zara où j'écoute Madame Soleil, ou bien j'écoute ce qu'Akadosh Baruch Hu me dit? Les autres rêves, celui qui était le serveur de vin. C'est quoi le liquide? C'est la Brit Mila, encore une fois. C'est pour ça que les hommes portent un michnasaim. Qu'est-ce que c'est michnasaim en hébreu? Non. Mekanes maim. C'est celui qui rassemble les eaux, c'est-à-dire qui empêche l'homme de fauter au niveau de la semence. C'est pour ça que ça s'appelle michnasaim, rabotai. Ken, il y a des secrets. Mais oui, mais... Michnasaim, mekanes, rassembler, maim. Rassembler les eaux, c'est-à-dire empêcher l'homme de fauter par perte de semence. D'accord ? C'est pour ça que les Kohanim devaient porter Michnasaim, pour faire la correction de la Brit Mila. Deuxième rêve, c'est quoi ? Le pain. Qu'est-ce que c'est le pain ? C'est la sagesse. On dit que le bébé ne peut pas dire papa, c'est la sagesse, tant qu'il n'a pas goûté du blé. Donc en réalité, encore une fois, la sagesse de la Emouna et la Brit Mila. Les rêves de Pharo, pareil, les vaches. Qu'est-ce que c'est les vaches ? Le péché de la chair. Ça, c'est au niveau sexuel. Et le deuxième rêve, le blé, encore une fois, le pain, et ainsi de suite. Vous voyez que la Torah est structurée d'une manière extraordinaire qui vient nous donner cette correction. Alors, je termine, nous devons corriger ces deux fautes essentielles dans notre vie. Première faute, revenir à la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans chacun de nos pas. N'oubliez jamais ça, vous ne serez jamais angoissé. Même quand ça vous paraît caché, camouflé. Deuxième chose, n'oubliez jamais de comprendre de quel degré vous faites partie. Du peuple d'Israël, du genre humain, de votre structure, dans les valeurs qu'Akadosh Baruch Hu vous a données plus que quelqu'un d'autre, et faire le lien entre nous pour savoir si c'est ce tissage Be'ezrat Hashem social qui est en réalité notre bracha. Je nous souhaite à tous, je vous souhaite à toutes de revenir en éteignant vos portables. Et que Be'ezrat Hashem, j'espère que ce cours vous a un petit peu rempli quelques vides. Et que l'eau, Be'ezrat Hashem, que j'ai essayé en toute humilité de faire passer, est bien arrivée à son port, à bon port. Je sais que ce n'est pas facile parce que ce sont des cours qui sont liés à la partie secrète de la Torah. Mais étant donné que c'est le temps d'étudier cette étude et que nos sages nous disent qu'aujourd'hui il faut donner cette étude, moins que ça, ça ne suffit plus. Il faut donner, il faut croire dans son propre peuple. Et moi, je sais que vous avez la capacité de comprendre. Même s'il y a des choses qui sont un petit peu, j'essaye de toujours, toujours ramener les choses le plus simple possible, que ce soit cohérent et compréhensible. Merci pour tout.